France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, voyage dans la Martinique de l'après-guerre avec un crime non résolu sur fond de tensions sociales et raciales, le meurtre de Guiteux Fabrique. Le 6 septembre 1948, dans l'une des nombreuses plantations de canne à sucre de l'île, située à Basse-Pointe, une grève générale est organisée par le syndicat des ouvriers agricoles. Pour l'administrateur, un blanc créole dénommé Guiteux Fabrique, la situation est intolérable. Il fait donc venir les gendarmes dans l'espoir de briser le mouvement social. Quand les forces de l'ordre arrivent, une bagarre éclate. Un groupe d'ouvriers désarme les fonctionnaires et pourchasse Guiteux Fabrique avant de le tuer de 36 coups de machette. Pourtant, dans les semaines qui suivent, les autorités peinent à identifier les coupables. Une décision est donc prise, rafler 16 ouvriers, tous syndicalistes, et les juger en grande pompe en métropole dans la ville de Bordeaux. Une affaire qui nous plonge dans le passé délicat d'un ancien empire qui a eu bien du mal à tourner la page. Notre invitée aujourd'hui, Camille Modouèche, spécialiste de l'affaire, autrice et réalisatrice du documentaire intitulé « Les 16 de Basse-Pointe ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Guillaume Ballandras, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
S'il n'y avait pas eu la canne à sucre, la Martinique en elle-même, et peut-être aussi la Caraïbe, n'aurait pas eu la même configuration ni historique, ni ethnique, ni même économique. Donc tout a commencé à partir de la canne, de là est née une langue, de là est née une culture, de là est née une gastronomie, de là est née une musique, etc. Et donc finalement, c'est un laboratoire énorme pour voir comment naît en fait un peuple, comment naît une tradition et comment naît une certaine forme d'esprit qui, je pense, est aussi un esprit d'avenir. Nous, nous savons que nous sommes un peuple métissé et nous acceptons ce métissage-là avec fierté.
Martinique, lundi 6 septembre 1948, ciel noir sous les tropiques. La saison des cyclones vient tout juste de commencer et des nuages menacent la campagne antillaise. Au nord de l'île, à quelques kilomètres du petit bourg de Basse-Pointe, le vent brûlant venu des terres balaye les champs de canne de l'une des principales plantations de l'île, l'habitation Les Ritz. Fondée 235 ans plus tôt, avec l'arrivée d'une famille de colons bordelais du même nom, c'est une plantation typique de la région. Une vaste propriété familiale, gérée par des blancs descendants de colons, qu'on appelle les béquets, et qui régente la vie de plusieurs centaines d'ouvriers agricoles noirs qui vivent et travaillent sur place. Pourtant, ce lundi matin, un calme étrange règne sur les lieux. Les champs sont déserts et le moulin à l'arrêt, de nombreux coupeurs de canne sont en grève. C'est le cas notamment de Nestor Clio. Assis sur une caisse dans la ruelle qui longe les petites habitations ouvrières, la fameuse rue Cazenègre, cet homme de 50 ans se réveille comme chaque matin en croquant à pleines dents dans une canne à sucre. Imperturbable, il écoute d'une oreille la discussion animée que tiennent plusieurs de ses collègues quelques mètres plus loin. Tous sont membres du syndicat des ouvriers agricoles de Basse-Pointe. Il y a là Louis Blaisès, Marcel Julina ou encore René Poloma. Ensemble, ils débattent de la stratégie à adopter pour cette longue journée de mobilisation, car ils le savent. Pour beaucoup de leurs collègues, la grève est loin d'être un réflexe. Cette journée, ça fait déjà un moment qu'ils la préparent. En cause, le licenciement abusif, deux semaines plus tôt, de trois de leurs collègues. La raison invoquée par la direction, ils ont travaillé pendant leur temps de repos dans une habitation concurrente, la célèbre plantation Saint-James de Saint-Pierre. Malgré les sollicitations auprès de l'inspection du travail, rien ne change, le motif est on ne peut plus légal. L'administrateur à l'origine de cette décision est un béquet de 41 ans, un certain Guiteux Fabrique. Descendant d'une longue lignée d'esclavagistes, il est l'administrateur de quatre habitations, dont celle de Les Ritz, qui appartiennent toutes, ces habitations, au même propriétaire. Fabrique, c'est le genre procédurier. Quand il apprend que trois de ses employés travaillent ailleurs, il met tout en œuvre pour les déloger. Parmi ces trois rebelles se trouve un certain Paterne Moutoussamy. 60 ans plus tard. Son neveu raconte son licenciement dans le documentaire consacré à l'affaire, réalisé par Camille Moutouèche, intitulé « Les 16 de Basse-Pointe ».
Vous êtes obligé de travailler sur l'habitation, sauf si le Bekel lui demandait, enfin d'aller travailler ailleurs. Mais de son propre chef, il ne pouvait pas quitter l'habitation pour aller travailler ailleurs.
Et c'est pour cette raison que Guy de Fabrique le fait revenir sur l'habitation.
On le fait revenir, et ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des gendarmes qui sont allés les chercher à Saint-Pierre pour les ramener menottes au point.
Les Becquet, comme Guy de Fabrique, jouissent d'un pouvoir disproportionné sur les travailleurs noirs. Depuis près de 4 siècles, c'est ainsi. Même s'ils représentent à peine 1% de la population, 20 familles tout au plus, ce sont eux qui détiennent les rênes de l'économie locale. Entre vieux réflexes paternalistes, impunité et toute puissance, ils sont pour de nombreux Antillais des maîtres intouchables. D'ailleurs, quand il apprend que les coupeurs sont en grève, Guy de Fabrique contacte tout de suite son supérieur et propriétaire de l'habitation, Victor de Paz. Dans les rues de Basse-Pointe, il n'est pas rare de croiser à dos de cheval ce riche industriel. Orné d'un costume blanc impeccable, surmonté d'un panama immaculé, l'allure du parfait colo. Mais en ce lundi matin, l'heure n'est pas à la promenade. Non, il faut briser ses grèves, au plus vite. Fidèles aux vieilles habitudes, De Paz et Fabrique conviennent de prévenir les forces de l'ordre. Face à ces dynamiques d'un autre temps, on en oublierait presque que l'esclavage a été aboli. C'était il y a tout juste 100 ans de cela, le 27 avril 1848. La Seconde République, à peine née, 250 000 esclaves étaient libérés de leur chaîne grâce au travail du sous-secrétaire d'État aux colonies, Victor Schœlcher.
Jamais dans nos cœurs le nom de Schœlcher n'a point changé. Schœlcher doit briller comme une étoile à l'Orient. Schœlcher doit briller comme une étoile à l'Orient.
100 ans déjà, et pourtant l'organisation sociale de la culture sucrière suit toujours la même logique raciale. Le travail pénible pour les Noirs, ainsi que le contrôle des terres, et les bénéfices financiers pour les Blancs. Néanmoins, il serait injuste de dire que rien n'a changé. En cette année 1948, voilà 2 ans que la Martinique ne fait plus officiellement partie de l'Empire colonial. Sous l'impulsion du jeune député de Fort-de-France, un certain Aimé Césaire, devenu conscience créole à lui tout seul, elle est désormais un département français, à part entière, à 7000 km de Paris. Avec ce changement de statut, les esclaves sont devenus des citoyens. Ça veut dire qu'il leur est désormais possible de voter, de se syndiquer et donc de faire grève. Pourtant, malgré ces évolutions, les difficultés économiques persistent. Inflation, pénurie, pauvreté, l'île au sucre est surtout une île en détresse. De l'autre côté de l'Atlantique, les autorités françaises restent sourdes à cette colère du bout du monde. Conséquence, de nombreux Antillais s'organisent politiquement. Ainsi, le Parti communiste martiniquais devient-il le premier parti de l'île, tandis que la CGT attire de plus en plus d'adhérents. En quelques mois, les revendications se structurent et les mouvements sociaux se multiplient. Une conscience politique antillaise nouvelle voit le jour. Face à ce climat social bouillonnant, la réponse des forces de l'ordre, soutenue par les Becquet, semble d'un autre temps, elle aussi. 6 mois plus tôt, par exemple, un drame s'est produit à l'habitation Lajou, située dans le village du Carbet. Lors d'une grève séminaire, les gardes mobiles ont tiré sans sommation sur les ouvriers. Bilan, 3 morts et 2 blessés graves. 75 ans plus tard, un reportage de Martinique Première donne la parole au fils de l'une des victimes, André Jacques.
Il y avait mon père et sa sœur Yvonne qui descendaient derrière. Et arrivés à leur hauteur, ils se sont arrêtés et puis se sont mis à tabasser mon père. Ma tante qui a essayé de riposter, elle a reçu une balle à la jambe. Et ils ont tué mon oncle Henri qui essayait de défendre son frère et sa sœur. On l'a emmené au Sana, après la tuerie, on l'a enterré. Ma maman n'a pas vu mon père. Ma maman n'a pas vu mon père et quand il a été tué, il a été enterré, elle n'a du tout pas vu. D'autant plus qu'elle était enceinte. Est-ce que c'était une bonne chose qu'elle puisse voir mon père à l'état qu'il était, parce qu'il était massacré.
Pour les travailleurs antillais, cette tuerie du Carbet est une plaie encore vive dans la mémoire collective. Alors, ce 6 septembre, quand la grève débute à Leritz, beaucoup redoutent la répression policière. Côté Becquet, en revanche, la répression la réclame. D'ailleurs, ce 6 septembre, vers 10h du matin, Guy de Fabrique prend sa Jeep et file à la gendarmerie de Basse-Pointe avec une idée précise en tête, porter plainte contre les grévistes pour entrave au travail. Encore une fois, il sait très bien qu'il a la loi de son côté. Cependant, tous les Becquets ne sont pas insensibles aux revendications. C'est le cas par exemple du frère cadet de Guy, Gaston de Fabrique. Simple gérant de l'habitation Les Ritz, ce trentenaire ne ressemble pas à ses congénères. Non, proche des ouvriers, chaleureux. Monsieur Gaston, comme on l'appelle, est un Becquet certes, mais un Becquet un peu plus soucieux que les autres des conditions de travail et du bien-être des coupeurs. Comme l'expliquent deux des grévistes, René Poloma et Torel Crétinoir.
Gaston était juste.
Il était juste. Oui. Il était juste.
Alors, juste, ça voulait dire faible avec les ouvriers pour Guy de Fabrique.
Il était réglo.
Monsieur Gaston, il était à boire bio. Et peut-être qu'il n'y a pas de l'homme, mais ça. Pas plus.
Monsieur Gaston, c'était un bon Becquet.
Oui.
En réalité, rien ne va plus entre les deux frères Fabrique. Le conflit larvé a commencé deux semaines plus tôt avec le licenciement brutal des trois ouvriers par Guy. Or, il se trouve que Gaston s'entend très bien avec l'un des trois licenciés, Paterne Moutoussami. Il prend donc une décision inédite, le réembaucher en catimini dans une bananerie voisine. Pour Guy, c'est un véritable sacrilège. À cause de ce Paterne, Gaston a désobéi et bafoué son autorité d'administrateur. Depuis, les deux frères ne se parlent que rarement. Et quand Gaston apprend que l'exploitation est à l'arrêt, il décide d'aller à la rencontre de ses employés. Sur place, il découvre une soixantaine de grévistes, dont Paterne, avec, face à eux, quelques ouvriers qui veulent à tout prix reprendre le travail. Et bientôt, les esprits s'échauffent. Pour les responsables syndicaux, ces heurts étaient à prévoir. Après tout, le droit de grève est récent et ils sont encore nombreux à croire que toute forme d'organisation est vouée à l'échec. Pourtant, malgré les tensions, ils décident de durcir le mouvement et de l'étendre aux autres habitations. Ainsi, un petit groupe mené par le leader syndical Marcel Julina est désigné pour faire le tour des propriétés voisines, avec pour mission de convaincre un maximum de coupeurs d'arrêter le travail. Entre les trajets à vélo et les négociations avec les employés, la tâche s'annonce difficile. Heureusement pour eux, les 15 habitations martiniquaises sont toutes regroupées dans le même secteur, au nord de l'île. À vrai dire, elles se ressemblent toutes, ces habitations. Une grande maison coloniale bâtie pour les Becquets, des petites cases entassées les unes contre les autres pour les ouvriers, puis un moulin, une presse et tout autour des centaines d'hectares de champs. Avec son climat tropical et un sol volcanique chargé en azote, la Martinique est un petit paradis coloré et luxuriant. Hibiscus, bougainvilliers ou encore alamanda, ici les fleurs sont partout. Au niveau agricole, on y cultive à peu près tout ce qui ne pousse pas sous les latitudes européennes, bananes, vanille, épices, mais surtout une herbe géante, à la tige dure, chargée de saccharose, la canne à sucre. Véritable institution antillaise, la canne sert à la fabrication de deux produits emblématiques dont raffolent les métropolitains, le sucre et le rhum. Chaque jour, des centaines de tonnes venues des plantations sont chargées à Fort-de-France dans les soutes des cargos, direction Le Havre. 30 ans avant l'arrivée du tourisme de masse, les exploitations de canne constituent le poumon économique de l'île. Et les chiffres sont vertigineux. 40 000 ouvriers agricoles pour une population de 260 000 habitants, soit près d'un Martiniquais sur 6. La vie de l'île tourne tout entière autour de la canne. Pour les coupeurs, le travail est précaire. Comme il n'y a que deux récoltes par an, les contrats sont saisonniers, tandis que les payes sont calculées en fonction du nombre de kilos ramassés. Pourtant, ce travail est à la base de tout le système. Ce qui signifie que si la grève se répand, toute l'économie est menacée. Accompagné de ses collègues, Marcel Julina arrive dans l'habitation voisine de Moulin-l'Étang. Sur un chemin, il observe un groupe d'hommes qui se dirige vers les champs. Dos voûté, chapeau de paille et très tiré, tous ont l'air d'avoir 15 ou 20 ans de plus que leur âge. Leur espérance de vie fait froid dans le dos, à peine 40 ans. Peu à peu, le son des machettes que les ouvriers appellent les coutelas s'élève dans la plantation. Au milieu de ces odeurs de sueur et de terre brûlée, certains travaillent jusqu'à 10 heures par jour. C'est le temps qu'il faut aux plus vaillants pour couper 5 tonnes de canne, comme l'explique Rémi de Rénal, un becquet responsable de plantation.
Mon travail consiste à organiser, planter, gérer l'exploitation qui fait 250 hectares. Nous produisons entre 20 et 23 000 tonnes de canne.
Le champ a été brûlé
hier soir. L'incendie, c'est... Nous sommes obligés de brûler la canne parce que ça facilite le travail des coupeurs. Quand vous brûlez, le travail va beaucoup plus vite. Ne brûlez pas la canne, le coupeur va récolter environ une tonne de canne par jour. Si on brûle, il en coupe 3 tonnes à peu près, 3, même 5 tonnes. Les bons coupeurs peuvent couper 5 tonnes.
Dans ces conditions de travail archaïques, les ouvriers doivent également faire face à la surveillance constante d'une catégorie bien spécifique de travailleurs, les commandeurs. Pour la plupart, ce sont d'anciens coupeurs. Ils agissent comme les relais des becquets sur les terrains. Chaque jour, ils s'assurent que les quotas de récolte sont remplis et ils n'hésitent pas à dénoncer les employés les moins efficaces. Chose étonnante, parmi tous ces commandeurs, beaucoup sont d'origine indienne. On les appelle les coolies. Arrivés dans la foulée de l'abolition pour pallier le manque de main-d'œuvre, ils ont d'abord servi aux responsables des plantations à faire pression sur les salaires. Et depuis, une tension est née avec les Noirs. Une tension que les becquets n'hésitent pas à alimenter. À l'habitation Les Ritz, le commandeur le plus redouté s'appelle Popo Bastel. Grand, costaud, toujours tiré à quatre épingles, ce proche de Guy de Fabrique est connu pour sa violence et ses coups tordus. Ennemi déclaré des syndicats, il est, comme la majorité de ses collègues commandeurs, un anti-gréviste convaincu. Au sein du mouvement, il y a un ouvrier qu'il déteste particulièrement, Paterne Moutoussamy. Viré par Guy de Fabrique, mais réembauché par son frère Gaston, Paterne est au centre du conflit qui agite l'habitation. Alors, quand les premières bagarres éclatent, en ce 6 septembre, Popo Bastel a une idée, faire passer Paterne pour l'un des grévistes les plus violents. À ce titre, il fait porter un message à la femme de Gaston, Colette. Quelques ouvriers, dont Paterne, se montreraient très menaçants contre son mari. Bien, l'affaire est urgente. D'après Bastel, il serait devenu fou. Et si on ne fait rien, Gaston sera exécuté. Pourtant, tous les témoins présents diront la même chose. Monsieur Gaston est un homme réglo et jamais il n'a été menacé, encore moins par Paterne. Alors, Popo Bastel, dit-il la vérité? Et s'il ment, dans quel but? Quoi qu'il en soit, ce message va mettre le feu aux poudres à l'habitation et conduire Guy de Fabrique à la mort.
Moi j'avais ça en moins.
Aujourd'hui, les 16 de Basse-Pointe.
France Inter, affaires sensibles.
1948, Martinique, département français d'outre-mer, grève générale à l'habitation de Léritz. Ce matin-là, ils sont une soixantaine d'ouvriers à avoir arrêté le travail. Face à eux, un groupe de surveillants antigrévistes, des commandeurs, tentent de les stopper. Bientôt, les provocations s'enchaînent. Menaces, insultes, coups. Et au milieu, le gérant becquet de l'habitation, Gaston de Fabrique. Vers 11h, sa femme Colette apprend une information inquiétante. Gaston serait pris à partie physiquement par les grévistes, plus particulièrement par Paterne Moutoussabi. Le message vient de l'un des commandeurs, un ennemi farouche des syndicats, Popo Bastel. Alors, faut-il s'inquiéter pour Gaston ? Pour de nombreux ouvriers, ce Popo Bastel joue constamment un double jeu et on ne peut pas lui faire confiance. Comme l'explique un des grévistes, Torel Crétinoir.
Moi, c'est le plus grand char qu'il y avait dans ces quartiers-là. Dans ces quartiers-là, hein. Pour moi, Basse-Pointe, c'est avec le plus grand char qu'il y avait à Basse-Pointe. C'est Popo Bastel.
Malheureusement, la femme de Gaston, Colette, n'est pas sur place pour vérifier. Alors, paniquée, elle décide de téléphoner à son beau-frère, l'administrateur Guy de Fabrique, qui est en train de porter plainte contre le syndicat des ouvriers agricoles pour entrave au travail. Colette compose donc directement le numéro de la caserne de gendarmerie de Basse-Pointe. Quand il apprend l'information, Guy devient blême. Son frère cadet est en danger de mort. Tout de suite, il saute dans sa jeep, accompagné de 3 gendarmes. Il faut désormais se préparer à affronter les grévistes. Ainsi, avant d'aller à Léritz, l'administrateur passe d'abord chez lui, à Moulins-l'Étang. Là, il prend son fusil de chasse. Aucun des fonctionnaires ne proteste. Ensuite, les 4 hommes foncent vers l'habitation. Très vite, le petit groupe arrive face au pic de grève. Dans cette atmosphère tendue, Guy remarque tout de suite son frère au milieu de la foule. Convaincu qu'il est menacé, l'administrateur dégaine son arme, la pointe vers le ciel et appuie sur la détente. Le tir de sommation part dans les nuages et une odeur de poudre envahit la plantation. Les regards des grévistes se tournent tous sur Guy. Quand il réalise qu'il est accompagné par les forces de l'ordre, certains paniquent. D'autres voient une provocation, comme l'explique l'historien Édouard Delépine au micro de Camille Mauvèche.
Les béquets s'estiment en danger. D'abord parce qu'ils savent ce qu'ils font, hein, comment ils traitent leurs ouvriers sur les habitations. Mais dès qu'il y a le moindre petit mouvement, ils ont véritablement peur. Et chaque fois qu'il y a une grève, il y a une crainte. Bon, mais ils s'en guérissent en faisant appel aux gendarmes. Et ça part aussi comme de la provocation. C'est-à-dire que les ouvriers qui, au départ, avaient l'intention simplement de manifester, ne peuvent pas accepter ou n'acceptent pas, comme ça, l'intervention des gendarmes pour les obliger à rentrer chez eux, à terminer la grève. Bon, c'est une atteinte au droit de grève. Sous prétexte de protéger les patrons qui n'ont nullement été menacés, ils interdisent la grève.
Tous ont encore en mémoire la tuerie du Carbet qui s'est déroulée 6 mois plus tôt. Alors, faut-il craindre une nouvelle bavure ? Dans un réflexe qui mélange colère et appréhension, les travailleurs fondent, coutelas en main, sur l'administrateur et les gendarmes. D'après certains témoins, Guy de Fabrique aurait même tiré sur le gréviste qu'il pense le plus violent, Paterne Moutoussami. Une chose est certaine, en surnombre, les coupeurs prennent vite l'ascendant et désarment les 4 hommes. Paniqué, Guy de Fabrique tente de fuir. Un petit groupe d'ouvriers en colère le pourchasse à travers les champs. Quelques instants plus tard, il est rattrapé. Les ouvriers présents, dont l'identité et le nombre ne sont toujours pas connus, s'acharnent sur lui. En tout, 36 coups de coutelas, dont 3 mortels. Entre les plans de canne, Guy de Fabrique se vide de son sang. Après cet accès de violence, tous les travailleurs de la plantation quittent les lieux. Très vite, Gaston arrive au chevet de son frère, mais il est trop tard. Guy de Fabrique est mort, il avait 41 ans. Un becquet tué à coups de machette par des grévistes en colère, à Basse-Pointe, puis sur toute l'île, l'information voyage à la vitesse de la lumière. Et en quelques heures à peine, tout le monde ne parle plus que de ça. Bientôt, la nouvelle arrive à Paris. Dans son bureau de la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jules Mocq, est inquiet. cette violence, pense-t-il. C'est la faute des syndicats et des communistes qui agitent l'île depuis des mois. Pour lui, comme pour de nombreux dirigeants, la Martinique, c'est l'outre-mer, des îles sauvages qu'on aime célébrer, de loin, mais qu'il faut civiliser et surtout exploiter.
Dans cette communauté française, la métropole a des devoirs. C'est elle qui, en créant des écoles, éveille des esprits et des âmes. C'est elle qui sauve des vies et apporte la santé dans la terre des épidémies. Et la France d'outre-mer, elle aussi, travaille pour nous. Grâce à elle, la France cultive la canne à sucre. Demain, elle pourra produire son propre caoutchouc. Ses forêts sont inépuisables. Au-delà des océans, la France cueille son propre coton. Elle récolte son propre café. Elle cultive le riz de ses enfants. Telle est la France d'outre-mer, dont les hommes se sont levés pour notre délivrance.
Quand il apprend la nouvelle de ce crime, Jules Moc ordonne aux gendarmes martiniquais de résoudre l'affaire au plus vite. D'où les responsables doivent être rapidement appréhendés. Sur place, l'enquête s'annonce difficile. Dans la confusion, Gaston n'a pas vu précisément qui avait frappé son frère. De leur côté, les ouvriers refusent de parler. Personne n'a rien vu ni entendu. Certains syndicalistes ont même pris les devants. Redoutant la répression, ils sont partis se cacher dans la campagne antillaise. Alors, qui était présent et surtout, qui a porté le coup mortel ? Les gendarmes sont dans l'impasse. Une décision arbitraire est donc prise. Interpeller les syndicalistes qui ont fui, ainsi que les instigateurs de la grève. Après quelques semaines de chasse à l'homme, 18 hommes sont écroués. Âgés de 23 à 50 ans, tous sont des acteurs importants du mouvement social. Nestor Clio, Louis Blaisès, René Poloma et bien sûr Pater Moutoussami. Ils sont placés en détention provisoire à Fort-de-France. Ils vont y rester 3 ans. Au cours de l'instruction, 2 inculpés arrivent à prouver qu'ils n'étaient pas sur l'habitation au moment du crime. Ils sont donc libérés. Pour les autres, ils sont 16. Il faut désormais faire face à la lenteur de l'instruction et à une enquête bâclée. Alors déjà, plusieurs inculpations ne tiennent pas debout. Clio Nestor, par exemple. Il aurait été reconnu par l'un des gendarmes avec qui il aurait fait son service militaire. Or, Clio est réformé et n'a jamais mis les pieds dans une caserne. Pour un autre appelé, Sébastien Julida, on s'appuie sur une confidence qu'il aurait faite à son compagnon de cellule, alors que les deux hommes n'apparaissent ensemble sur aucun registre. Pressés par leur hiérarchie, les gendarmes sabotent l'enquête. Face aux errements d'une justice sommée de condamner une poignée de militants noirs, une grande campagne de solidarité s'organise en Martinique. Pétitions, manifestations, caisses de soutien. Dans les mois qui suivent, des milliers d'Antillais se regroupent autour des inculpés et le bouillonnement est tel que le procureur de Fort-de-France demande à ce que sa cour soit dessaisie. Sa lettre est lue par l'avocat Paul Pront.
Je ne crains pas d'affirmer que la cour d'assises de Fort-de-France ne présentera pour juger cette affaire aucune garantie d'impartialité. Crime d'ouvriers grévistes contre des gendarmes et un patron, crime de gens de couleur contre des blancs, aucune impartialité n'est à attendre des juges populaires locaux. Il serait extrêmement regrettable qu'un crime aussi grave reste impuni. Et j'entends ainsi frapper d'une sanction insuffisante. Alors, on comprend très bien ce que veut dire le mot impartialité sous la plume du procureur, c'est-à-dire impitoyable.
Pour être impitoyable, donc, on choisit de dessaisir la cour de Fort-de-France pour celle d'un ancien port négrier, capitale française de l'esclavagisme, Bordeaux. Pour les autorités, le calcul n'est évidemment pas anodin. Dans cette ville où de nombreux béquets ont encore des attaches, on espère que le verdict sera exemplaire. Après 3 ans d'incarcération préventive, le 22 juillet 1951, les 16 accusés sont embarqués dans un navire, direction le port du Havre. Grâce au réseau militant tissé des deux côtés de l'Atlantique, un grand mouvement de soutien s'organise aussi en métropole. Dès leur arrivée, les dockers refusent de débarquer le navire et débrayent pendant 24 heures pour soutenir les détenus. Après leur transfert, le procès s'ouvre le 9 août 1951 au palais Tiac de Bordeaux. Pour pour la défense des inculpés. Les syndicats ont embauché 11 avocats antillais, presque tous communistes. Il y a par exemple l'avocat principal, maître Georges Gracian, une figure politique bien connue en Martinique, mais aussi maître Gerty Archimède, la première femme députée de Guadeloupe. Leur stratégie pointait les failles béantes de l'instruction. De son côté, l'accusation s'appuie sur tous les poncifs racistes de l'époque. Les accusés sont présentés comme des fainéants incultes, tandis que Guy de Fabrique est décrit comme un travailleur honnête et droit. Pourtant, à mesure que les débats avancent, une évidence se fait de plus en plus précise. Aucune preuve solide n'existe contre les 16, tout au plus quelques suspicions. Finalement, le 13 août 1951 à 14h, le verdict est rendu. Acquittement général et libération immédiate pour tout le monde. Dans la salle d'audience, les applaudissements se mêlent aux huées. Toute la tension entre le passé colonial et un futur qu'on espère radieux est ainsi résumée. Un mois plus tard, le 12 septembre, les 16 regagnent leur île et ils sont accueillis en héros. Incapables de retourner travailler dans les plantations, ils se voient proposer par Aimé Césaire d'intégrer les services municipaux de Fort-de-France. Malgré cette issue heureuse, une question reste en suspens. Qui a tué Guy de Fabrique en ce 6 septembre 1948 à l'habitation Les Ritz? 60 ans plus tard, dans le documentaire sur l'affaire Les 16 de Basse-Pointe, l'un des acquittés, René Poloma, fait un aveu à Camille Maudehèche. Parmi les 16, il y avait 11 innocents. Cela signifie que 5 d'entre eux étaient coupables. D'après plusieurs témoins, l'auteur des coups mortels, lui, n'a jamais été inquiété. Aujourd'hui, les 16 de Basse-Pointe sont morts. En Martinique, ils semblent bien loin, le temps pas tellement béni des habitations. Sur l'île, le tourisme a depuis longtemps remplacé la canne. À Les Ritz, le destin toujours facétieux a transformé les anciennes cases des ouvriers en bungalows climatisés avec télé et connexion Internet. Pour autant, est-ce que les temps ont vraiment changé? Car hier, comme aujourd'hui, entre Basse-Pointe et les Anses d'Arlet, c'est toujours le même refrain. Chômage, précarité et débrouille pour les uns, palmiers, détente et baignade pour les autres.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les 16 de Basse-Pointe, dont nous parlons avec notre invité déjà cité dans le récit, Camille Modehèche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice et réalisatrice de documentaires de fiction aussi ?
Également, oui.
Et vous êtes réalisatrice et autrice du documentaire intitulé Les 16 de Basse-Pointe, dont nous avons pu utiliser plusieurs extraits. Nous vous en remercions. Alors, j'en profite pour remercier également Hélène et Xavier Bouvard, qui nous ont mis sur la piste de cette affaire, ainsi que notre collègue Isabelle Tell, originaire de Basse-Pointe, qui nous a donné de nombreuses informations. Camille Modehèche, vous avez donc réalisé ce film en 2008, hein, et vous avez rencontré deux des accusés qui sont depuis décédés. Vous pouvez nous parler de ces rencontres-là, d'abord, qui étaient-ils et comment ça s'est passé ?
Alors, en effet, je vous remercie de m'avoir invité d'abord. En effet, j'ai rencontré René Poloma et Paterne Moutoussamy. Alors, je suis arrivée à eux parce que j'ai rencontré cette affaire, moi, par le biais d'un dossier qui m'a été confié par la femme de Georges Gracian, dont vous avez parlé, qui était l'avocat principal des 16 de Basse-Pointe en Martinique, qui est arrivé tout de suite sur les lieux au moment du crime, et puis qui a donc tout de suite assuré la défense de ses ouvriers, qui était d'ailleurs un des leaders du Parti communiste martiniquais. Donc j'avais ce dossier, j'étais intéressée par cette affaire, et donc j'ai fait des recherches et j'ai rencontré un avocat qui avait écrit un petit article sur eux, et c'est lui qui m'a emmenée jusqu'à René Poloma. Mais arriver à René Poloma, ça ne suffit pas d'arriver comme ça, je ne peux pas arriver devant René Poloma et lui dire « Bonjour Monsieur Poloma,
alors,
parlez-moi des 16 de Basse-Pointe ouais. ». Impossible, c'est une histoire dont on ne parlait pas. Ce film a jeté un pavé dans la mare. On m'avait promis beaucoup d'ennuis à traiter une affaire comme celle-ci. Et donc, il a fallu que je fasse la preuve déjà de ma légitimité à traiter une affaire comme celle-là. Donc déjà, mon arbre généalogique comptait énormément, bien évidemment. Et puis ensuite, pas à pas, j'ai pris contact avec lui. On le voit très bien dans le documentaire. Il est difficile à la parole, on avance petit à petit. Je suis obligée de faire beaucoup de chemins de traverse pour arriver finalement à reposer des questions auxquelles il apporte des informations. Et puis, Paterne Moutoussamy, je l'ai rencontré avec son neveu, donc. Mais Paterne était, au moment où je l'ai rencontré, en perte de mémoire, en fait, déjà très âgé. Donc, à part le mettre à l'image parce qu'évidemment, il est un des acteurs principaux de cette affaire, principal inculpé, finalement. Oui. Je ne voulais pas le laisser en dehors du film, parce qu'on aurait pu croire, finalement, que je l'avais évacué.
Parce qu'il était coupable.
Parce qu'il était coupable, ouais, voilà. Et je ne voulais pas. Donc, il est à l'image, et c'est en fait, la forme du film renvoie à la reconstitution de sa mémoire.
Absolument. Effectivement, ils sont 16, il y a 11 innocents, donc 5 coupables. J'imagine que c'est pour cette raison qu'il est difficile d'enquêter sur cette affaire, y compris et surtout d'ailleurs auprès des protagonistes. C'est pour cette raison-là ?
Oui, parce que en fait, c'est très difficile d'enquêter parce que ce qui les a sauvés, ces 16 de Basse-Pointe, c'est le silence.
Et oui.
Qu'ils ont gardé entre eux. C'est ça qui les a sauvés. Si les forces de l'ordre, les enquêteurs de l'époque avaient fait correctement leur travail, c'est-à-dire enquêter, chercher des preuves, interroger les gens, ils auraient certainement arrêté beaucoup moins de monde. Et ils auraient peut-être eu les preuves, en tout cas, à apporter finalement à l'instruction et au procès. Mais l'objectif de cette affaire était d'arrêter les leaders syndicaux. C'était l'objectif du préfet Trouillet de l'époque, qui est le premier préfet de la Martinique juste après...
La départementalisation en 48, c'est ça ?
Exactement. Donc la départementalisation. Et ce préfet vient avec une lettre de mission qui est d'affaiblir le Parti communiste martiniquais. Donc... voilà, l'occasion lui est offerte de pouvoir mettre sous les verrous très rapidement des leaders syndicaux sur les habitations du Nord, sur une grosse habitation. Et c'est ce qu'il fait, en fait. Et donc, les enquêtes n'ont pas été véritablement menées. Ce n'était pas les objectifs. L'objectif, c'était mettre le plus de délégués syndicaux, de responsables syndicaux sous les verrous.
Et ça fait une double erreur judiciaire, finalement, parce que... Il y a, je ne sais pas s'il y a 5 coupables, peut-être 3, 2, on ne sait pas. Et puis il y a des gens qui font 3 ans de prison alors qu'ils sont innocents.
Absolument. Alors, ce qui était difficile pour eux en prison, c'était d'arriver à maintenir le silence. Parce que parmi les gens qui étaient emprisonnés, il y avait des gens qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui s'était passé, qui n'avaient rien vu. Il y en avait qui avaient vu, mais qui n'étaient pas parmi les meurtriers. Et il y en avait qui étaient les meurtriers.
Eh oui.
Voilà. Donc, il fallait maintenir le silence entre tous ces gens. Et je crois que, enfin, en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que Louis Blaisès a fait ce qu'il fallait pour que le silence soit maintenu en prison.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ben, ça veut dire que simplement, il a fait...
Intimidé ?
Voilà, il a usé de son autorité, évidemment, de délégué syndical et puis de leader. Hein. Il avait un charisme très, très important. Et il a réussi à maintenir le silence, parce qu'ils sont quand même restés 3 ans emprisonnés, avec tout ce que ça pouvait comporter pour eux, évidemment, de risques.
Bien sûr. Camille Maudouèche, on se retrouve dans 3 minutes. On écoute Young Fathers, I Saw. I want your shield, I want your weapon. Give me that bulletproof vest.
France Inter. Affaires sensibles.
Camille Maudouèche, quand Guy de Fabrique arrive face au grévistes, bon, avant le drame, avant qu'il soit tué, que veut-il faire exactement ? Est-ce qu'il veut briser la grève ou s'en prendre physiquement aux ouvriers ? Je veux dire, est-ce qu'il veut instaurer un rapport de domination sociale ou raciste ?
Non, je pense que quand il arrive avec les gendarmes, comme vous l'avez très, très précisé dans le récit que vous en avez fait, il est à la gendarmerie à ce moment-là en train de porter plainte. Mmh. Et ce qui le fait venir comme ça rapidement avec les gendarmes, c'est son assurance également. C'est l'administrateur de ces habitations. Et c'est surtout parce que Gaston est
en danger.
Et là. est en danger. Donc il y va. En général, dans toutes les affaires, entre ces affaires-là de grève, les béquets n'interviennent pas directement sur les habitations. Les deux seules fois où ils interviennent physiquement sur les habitations, où ils font un face-à-face avec leurs ouvriers, c'est donc ce jour-là, le 6 septembre, avec Guy de Fabrique, et en 1870, dans l'insurrection du Sud, le béquet Codé. Et les deux fois où ça s'est passé, les deux béquets sont morts. Ouais. C'est dire à quel point ça peut devenir violent à cette époque. Heureusement, ce n'est plus le cas. Ça peut devenir violent, finalement, le face-to-face, comme on dit, entre un béquet, un colon, un patron, parce que c'est avant tout un patron, et les ouvriers agricoles. Donc, en général, ils appellent les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre interviennent, et elles font donc le travail, elles font le tampon. C'est ce qui se passe au Carbet. Le béquet du Carbet appelle les forces de l'ordre pour qu'ils interviennent au Carbet, et ça fait trois
mois. Et c'est le drame.
Voilà. Et c'est le drame. Mais les béquets ne sont pas impactés. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y va parce que son frère est au milieu des grévistes et il y va aussi parce qu'il est très sûr de lui, en fait, Guy de Fabrique.
Alors on dit Guy de Fabrique d'un côté, le méchant, et puis son frère Gaston, le gentil. J'imagine que c'est trop simple, évidemment, comme d'habitude. Hein.
Oui, évidemment, ce sont des raccourcis assez simples, hein, le bon, le méchant. Ce qui se passe surtout, c'est qu'on est à Basse-Pointe, que c'est une petite commune, que Gaston, donc finalement, est le gérant de cette habitation, et que les ouvriers avec lesquels il est sont à la fois ses ouvriers, mais à la fois ses voisins, ses copains, et que ça boit ensemble, ça parle créole, etc. Donc il y a une relation qui est un peu plus intime, et d'ailleurs sur laquelle Guy reprend beaucoup Gaston, sur sa fraternité trop proche avec, avec les ouvriers, qui de fait se solde par ce qui s'est passé. Voilà, Guy est beaucoup plus au-dessus de tout ça, il administre plusieurs habitations, il est plus en responsabilité, il est directement en relation avec Victor de Passe, qui est le grand patron, mais il ne faut pas oublier que Guy de Fabrique, c'est un salarié de l'habitation. C'est pas le propriétaire de l'habitation, c'est un administrateur. Il rend donc des comptes et des ordres, il rend des comptes à Victor de Paz. Donc c'est pour ça qu'à la fin du film, voilà, je mets les choses un peu en place en disant, bon, voilà, c'est un salarié zélé, finalement, là, qui est pris au piège.
Alors, dans un conflit comme ça, en métropole, il n'y a pas tout à fait les mêmes repères. Hein. Est-ce que parmi les grévistes et les membres du Parti communiste aussi, il y a, pour certains, une envie d'indépendance, de se rebeller contre les colons et qu'on n'est pas seulement dans un conflit social?
Alors, c'est peut-être le cas aujourd'hui, maintenant. Ce sont des choses qui démarrent dans les années 60, ces idées-là.
D'accord, donc là, on est un peu tôt, on est en 48.
Voilà. Hein. Et là, on est en 48, c'est vraiment au sortir de la départementalisation.
Qui est en 46, d'ailleurs.
Qui est en 46.
J'ai dit 48 tout à l'heure, mais c'est 46.
C'est ça, 48, c'est l'affaire, et 46, c'est la départementalisation. Ce qui se passe surtout, c'est qu'enfin, les ouvriers de Martinique, de Guadeloupe, des Antilles, ont les mêmes droits que les ouvriers français. Et c'est français à part entière.
Ben oui. C'est important.
Et c'est important à ce moment-là. Hein. Sauf que cette promesse-là, elle n'existe pas, elle n'arrive pas, parce que le schéma social et économique n'est absolument pas le même. Et qu'il est évidemment empreint de toutes les questions économiques, raciales, sociales qui y sont liées. Donc cette promesse ne vient pas. Et c'est cette déception, en fait, qui est très très grande.
Aujourd'hui, quelle est la place des béquets dans la société martiniquaise ?
Alors aujourd'hui, la place des béquets, bon, évidemment, la Martinique a bien changé. Voilà.
Oui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui.
Oui, oui. Mais bon, la question est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie de la canne a bien chuté, hein, concurrencée très vite par la betterave sucrière, d'ailleurs. La banane a remplacé la canne. La question de la banane renvoie également, comme tout le monde sait, à la question du chlordécone aujourd'hui.
Absolument.
Voilà. Les grands groupes béquets se sont plutôt redistribués aujourd'hui sur l'import-export, les grands supermarchés, les grands hypermarchés, tout ça. La question historique, c'est ce que j'appelle moi la question historique, c'est-à-dire cette question qui fonde la Martinique sur, évidemment, la colonisation, la post-colonisation et aujourd'hui, cette question historique est toujours très vive lorsque les conflits arrivent. Elle n'existe pas lorsqu'on est en temps de paix, on va dire, lorsque tout va bien, il n'y a pas ça.
Mais après, ça ressort. Dès qu'il y a un problème, ça ressort.
Mais dès qu'il y a un petit problème, quel qu'il soit, cette question historique revient à la surface parce que c'est une question qui, de toute façon, n'est pas réglée, si ce n'est pas réparée.
Est-ce qu'on peut dire, dans le même ordre d'idée, que le procès qui s'est tenu à Bordeaux était le premier procès du colonialisme, finalement ?
Oui, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire parce que ces ouvriers sont transportés à Bordeaux, qui est un port négrier, que là, ils retrouvent quand même, outre les dockers, leurs camarades bordelais de la CGT, qui mènent une grande, grande campagne de solidarité autour d'eux. Ils ont aussi bénéficié du fait que le procès s'est déroulé au mois d'août et qu'il y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là, donc il y avait la place pour pouvoir exister. Ils ont eu évidemment de très très bons avocats à ce moment-là pour les défendre. Et puis surtout, il n'y avait pas de preuves.
Il n'y en a toujours pas d'ailleurs.
Et il n'y en a toujours pas.
Quelle trace, si tant est que ça en ait laissé une, quelle trace a laissé cette histoire-là dans la société martiniquaise, dans l'histoire, donc quand la Martinique regarde sa propre histoire, c'est important.
Oui, c'est important. Alors, c'est maintenant, hein, parce que j'avoue, bon, c'est pas pour ramener les choses à mon travail du tout, mais c'est vrai que le film que j'ai fait a remis cette histoire, en fait, au centre des discussions, au goût du jour, et on s'est interrogé dessus. Parce que c'était vraiment, vraiment enfoui, hein, vraiment très, très fort. Et il y a une certaine, fierté, finalement. Non pas une fierté d'avoir assassiné un béquet, mais une fierté d'avoir une fois au moins avoir été solidaire.
Ouais.
Les Martiniquais, les ouvriers, sont restés solidaires entre eux. Ils ne se sont pas, on dit en créole, on dit complonex et complochien. Ça veut dire qu'on peut toujours arriver à diviser, c'est diviser pour me régner, on peut toujours arriver à diviser finalement les uns et les autres pour les contraindre. Et ben dans ce cas-là, dans cette affaire-là, ça n'a pas été possible. Et c'est ça la fierté finalement que nous renvoie cette affaire qui reste une affaire douloureuse parce qu'un homme est mort, un homme qui avait une femme, des enfants d'ailleurs que j'ai rencontré ensuite et donc avec une question qui n'est de toute façon pas résolue.
Des projets Camille Modouèche en ce moment, projets professionnels autour peut-être de la Martinique ?
Non, projets professionnels. Mon terrain de recherche c'est la Martinique, les affaires politiques et sociales et je travaille évidemment sur ça et notamment sur une affaire qui a eu lieu dans les années 60, l'affaire qui tourne autour d'un personnage emblématique qui s'appelle Pierre Justmarny, qui a été le plus vieux prisonnier de France, 44 ans d'emprisonnement dans les geôles françaises et qui est décédé en 2011.
Bien, je vous laisse exploiter ça, puis je le note pour une affaire sensible dans 3 ans, 4 ans, 10
voilà.
ou 20
attendez
ans.
Que je fasse le film.
Mais oui, c'est ce que je dis, voilà. J'attends. Hein.
Voilà, comme
je
ça vous aurez
pas
un document.
Plate-bande. Voilà, on fera ça dans 25 ans.
Non, pas 25 ans, je vais essayer de le faire avant.
Non, mais nous. Merci infiniment, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les 16 de Basse-Pointe, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.